Le dévoilement de Dieu numéro 213. Lié par la peur, affranchi par l'amour. Le 16 mai 2021. Brian Kozurek. Ce matin, nous reviendrons au paragraphe 16 à 20 du sermon de frère Branham, Dieu dévoilé, parce qu'il y a un sujet dans ces 5 paragraphes que nous n'avons pas vraiment pris le temps d'exploiter, ce qu'il a dit et l'a ramené dans les Écritures. Ici, nous verrons que Fr. Branham parle d'un temps où les gens ont peur, et c'est à ce moment-là que Dieu se révèle. Nous voulons donc revenir en arrière pour couvrir les choses sur lesquelles nous avons passé la première fois dans ce sermon de frère Branham, et nous voulons nous concentrer sur ce qu'il dit au paragraphe 16 à 20. La raison pour laquelle je veux me concentrer sur ce qu'il a dit ici, c'est parce qu'il est très évident que le sujet est très pertinent pour les jours dans lesquels nous vivons, ces 2 ou 3 dernières années, d'autant plus qu'il s'agit des conditions de cette heure où les gouvernements, le système de santé mondial, et l'ensemble des médias du monde entier projettent un esprit de peur sur les gens, les amenant à faire et agir différemment, de la manière dont, normalement, ils n'auraient pas agi. Et pendant tout ce temps, les gouvernements et les médias du monde ont insufflé aux gens un mantra de peur. Et rappelez-vous, frère Branham nous a prévenu que Dieu Néhémie ne peut pas envoyer la destruction avant que les gens Néhémie soient dans l'esprit de la destruction. La préparation mère 11 novembre 53-16. Et puis-je m'arrêter précisément sur ce point? Juste une minute. Pour dire ceci. Je crois que les gens sont en préparation pour la dernière et la plus grande destruction que ce monde n'ait jamais connue. Je crois que nous sommes à la fin. Vous pouvez parler aux gens, vous pouvez placer 1 mg dans chaque ville des États-Unis. Les gens boiront du whisky, fumeront, se moqueront de vous et tout le reste. Malgré tout, ils sont dans l'esprit des derniers jours. Et Dieu Néhémie peut pas envoyer la destruction avant que les gens Néhémie soient dans l'esprit de la destruction. Dieu n'a jamais détruit quoi que ce soit. Chaque fois c'est l'homme qui se détruit lui-même. Cela dit, on peut voir que cette pandémie qui a commencé sera suivie d'une plus grande pandémie et d'une dépression plus importante que ce qui s'est passé lors de la Grande Dépression de 1929 à 1933. Mais comme nous vous l'avons déjà montré en janvier 2020, qu'il y a une grande dépression qui doit se produire pour que les banques du monde et le gouvernement justifient une réinitialisation globale. Cette réinitialisation Néhémie vise pas seulement à réinitialiser l'économie mondiale, mais l'utilise également pour réinitialiser d'autres problèmes sociaux mondiaux. Un scientifique appelle les vaccins ARN administrés la nouvelle réinitialisation du système d'exploitation humain, et il l'a appelé l'humanité 2.0. Transformant l'homme d'un humain à un transhumain, où un système d'exploitation prend le contrôle de l'ADN donné par Dieu. C'est juste comme ce que le serpent a fait dans le jardin avec Ève, produisant la première hybridation de l'humanité. Dans son sermon Dieu de Waldim 14 juin 64, M. frère Branham dit, 16 maintenant, dans, j'aimerais lire dans Philippiens, chapitre 2, de 1 à 8, et dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 6, et nous lirons jusqu'au chapitre 4 de 2 Corinthiens, juste pour nous servir de contexte. Maintenant, c'est dans Philippiens, chapitre 2. Que je lirai d'abord. Avant de lire, prions. 17 Seigneur Jésus, ta parole est la vérité. Et en cette heure d'agitation où nous vivons, nation qui s'élève contre nation, la peste fait partie des fléaux, des tremblements de terre à bien des endroits, les cœurs des hommes qui défaillent, la peur, nous voyons l'écriture sur la muraille. Maintenant, rappelez-vous qu'un prophète de Dieu est comparé à un aigle, qui peut voir tellement plus loin dans le futur que le commun des mortels. Tout comme l'aigle peut voler plus haut que tout autre oiseau, il est également équipé d'une paire d'œils, qui peut se concentrer sur des choses très éloignées et les voir mieux que nous n'y pourrions les voir avec des jumelles. Ainsi ce prophète a vu sous forme de semence ce que nous voyons maintenant se manifester aujourd'hui 60 ans plus tard. Et si vous étudiez ce qui se passe aujourd'hui comme moi, vous découvrirez que beaucoup de choses que nous voyons se manifester aujourd'hui, les mondialistes du monde en plantèrent les semences dans les années 1940 et 1950. Puis frère Branham continue, Oursa, s'estère dans le domaine naturel, afin que le monde entier voit ces choses. Mais, maintenant, il y a aussi un domaine spirituel. Nous voyons de grandes choses qui se produisent, et nous voulons en parler aujourd'hui. Ainsi frère Branham nous fait savoir que les semences qui seraient manifestées étaient de différentes sortes, les semences naturelles et les semences spirituelles qui étaient plantées ce jour-là. Continuons à lire. 18 Bénis ta parole dans notre cœur. Nous savons qu'il n'y a aucun homme dans le ciel, ni sur la terre, qui soit digne de prendre ce livre, d'en rompre les sceaux, ni même de le regarder. Mais quelqu'un s'est représenté, un agneau immolé, ensanglanté, il est revenu et il a pris le livre, il était digne et il a pu l'ouvrir. Ô agneau de Dieu, révèle ta parole à nos cœurs aujourd'hui, pour que nous y trouvions une consolation. Nous sommes tes serviteurs. Pardonne nos péchés, Seigneur. Et tout ce qui pourrait empêcher la parole de sortir avec une grande puissance et une grande influence sur nos vies aujourd'hui, ôte-le, Seigneur, tout obstacle, afin que nous ayons pleinement accès à toutes les bénédictions qui nous ont été promises par ta parole. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tant que vous vous concentrez sur le naturel, vous sentirez la peur et l'anxiété, mais il nous dit ici que ce n'est qu'une distraction pour vous cacher ce qui se passe dans le domaine spirituel. Alors il dit ici, révèle ta parole à nos cœurs aujourd'hui, pour que nous y trouvions une consolation. Et ce que nous ferons ce matin, c'est de nous concentrer sur la consolation de savoir ce qui se passe et comment la parole de Dieu nous a été donnée pour nous apporter la consolation en cette dernière heure de la prédestruction de la terre. Dans 2 Timothée 1.7 nous lisons, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et nous savons que l'amour est retiré des gens aujourd'hui, et les peuples du monde à cause de la peur, Néhémie se concentre pas sur ce domaine spirituel de la parole de Dieu et ce qu'il fait, mais ils sont plutôt bombardés quotidiennement par toutes les choses négatives et destructrices qui se produisent. Suivez les informations et vous serez constamment bombardés d'émeutes, d'incendies, de protestations et de maladies, et de la maladie et de la mort. Il n'y a que de mauvaises nouvelles à la télévision, à la radio ou dans les journaux. Et toute cette pression a transformé les gens en des névrosés. Maintenant, nous n'avons pas le temps d'entrer dans ce sujet, mais nous avons couvert cela à la fin du 2019. Lorsque nous avons parlé de la folie du temps de la fin qui s'est abattue sur le monde. Mais si nous nous tournons vers le domaine spirituel, le domaine de la parole de Dieu et de sa présence, nous voyons qu'il y a des promesses qui nous sont absolument données, à nous mais pas au monde. Le monde est à l'écoute de la quatrième dimension ou de la radio et de la télévision, mais l'épouse est à l'écoute de la septième dimension où vit la présence de Dieu. Et comme nous vous l'avons montré au cours des 2 ou 3 derniers sermons, vous, Néhémie, pouvez pas séparer Dieu ni son esprit de sa parole. Et donc Paul nous dit ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et si vous êtes saint d'esprit, vous, Néhémie, vous laisserez pas entraîner par toute la frayeur qui est insufflée dans l'esprit des gens, amenant la dépression et le suicide, atteindre des nouveaux records. Dans Romains 1.15, l'apôtre Paul a également dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. Or, l'esprit de servitude esthère l'esprit de peur. Parce que lorsque que les gens ont peur, ils arrêtent de penser de façon rationnelle. Ils arrêtent les actions rationnelles et ils s'isolent. Et nous avons vu comment on a dit aux gens que, pour leur propre bien, ils doivent s'isoler des autres, et cela, en soi, crée plus de peur. Et Dieu nous a donné son esprit pour penser clairement et sans crainte, sachant qu'il esthère notre bouclier et notre cuirasse. Et il esthère notre père qui n'émit laissera pas le mal à qui venir vers nous. Dans 1 Jean 4.18 nous lisons, la crainte n'esthère pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'esthère pas parfait dans l'amour. Et nous savons par les Écritures que le châtiment de la crainte esthère le suivant, quand vous avez peur, vous commencez à vous figer et vous arrêtez d'avancer avec Dieu, et ce dans quoi Dieu vous introduit. Et votre attention s'éloigne de Dieu, votre protecteur, et à la place, elle se porte sur l'objet de votre peur. Et la peur esthère un outil dangereux du diable, car la crainte suppose un châtiment. Quand les gens ont peur, ils sont liés par ces peurs. Nous lisons dans 1 Jean 4 que l'amour parfait ou mature bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, c'est-à-dire dû au fait que vous vous figez et que vous vous cristallisez dans votre pensée. Vous voyez, dans la Bible, nous lisons là où Joseph était fiancé à Marie, mais quand elle lui a dit ce que l'ange lui a dit, à propos de porter en elle le Messie. Autrement dit, selon une compréhension du monde, quand il a découvert qu'elle était enceinte, même si elle lui a dit comment cela s'est-il passé, que Dieu lui-même la couvrit de son ombre. Toutefois sa peur l'a arrêté, et il se proposa de rompre secrètement avec elle, nous dit la Bible. Autrement dit, le châtiment de la peur lui fit arrêter le projet qu'il avait de l'épouser. Joseph craignait que Marie n'eût pas été fidèle, et à cause de cette peur, il a fait le projet de mettre fin au mariage. Alors Dieu envoya son ange à Joseph, et lui dit, de n'aimer pas craindre de prendre Marie, sa femme. Alors qu'esthère ce que la peur avait fait à Joseph, cela l'a amené à douter du plan de Dieu pour lui d'épouser Marie. Et cela l'a fait arrêter d'aller de l'avant avec le plan de Dieu pour sa vie. Maintenant, Israël était sous l'occupation de Rome à l'époque, et le stress quotidien sur les gens de vivre simplement sous cette menace. Néhémie sachant pas ce qui pourra arriver, vont-ils anéantir tous les Israélites? Personne n'était sûr des conséquences de cette occupation, et en plus de cela, Marie lui raconte une histoire qui était tellement extraordinaire, qu'il avait du mal à qui à la croire. Et pourtant, c'était biblique. Dieu a en effet promis qu'une vierge concevrait. Mais tout comme Joseph, beaucoup de gens qui aiment et servent Dieu, regardent ses promesses comme si elles n'émis sont pas pour eux, mais pour une autre personne bénie. Mais au lieu de prendre Dieu au mot, le chrétien doute de la chose même que Dieu nous a donnée pour nous consoler dans les temps de péril et de détresse. Nous lisons dans Luc 21.25-27 « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui n'y sauront que faire, qui esthèrent un temps de confusion à cause de beaucoup de conditions compliquées, au bruit de la mer et des flots. 26 Les hommes auront dans l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. C'est-à-dire donc le fait de considérer les choses que nous voyons arriver mais qui n'émis sont pas encore vraiment arrivées sur la terre, qui provoque la confusion. Vous voyez, Les gens connaissent suffisamment les Écritures pour être avertis de ce qui va arriver. Mais comme ils ne sont pas concentrés sur cette parole pour s'en sortir, ils voient juste les signes de l'avertissement et tirent des conclusions. Et au lieu de réagir contre ces choses, quand ils les voient sous forme de semences, ils ne font que reculer et ne font rien de ce que les gens effrayés font lorsqu'ils sont confrontés à des dilemmes situationnels. Ils voient dans la Bible qu'il y aura une marque de la bête. Et ils voient comment le passeport vaccinal fera la chose même dont parle la Bible. Donc au lieu de lire l'autre partie, qui dit que Dieu fera sortir son peuple avant que cela n'arrive, ils ont peur et Néhémie font rien à ce sujet. Et c'est-à-dire le châtiment de la peur. Vous vous arrêtez. Vous vous figez et vous Néhémie faites rien. 27 Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. 28 Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Mais au lieu de lever la tête vers Dieu, de lever les yeux et de se recentrer, ils avancent d'un pas lent, figés de peur comme les milliers d'hommes qui marchaient vers les camps de prisonniers japonais à bâton. Vous savez que c'est-à-dire une chose que je n'ai jamais compris. Pourquoi des milliers d'hommes craindraient-ils quelques soldats japonais armés de fusils? Pourquoi? Parce qu'ils n'y cherchent pas à savoir que leur rédemption est proche. Alors ils avancent d'un pas lent avec leur tête baissée regardant le sol devant eux. Chaque pas du chemin vers leur mort les mène dans les camps d'internement. Remarquez que la Bible nous dit que les hommes verront des choses qui produiront la perplexité, qui estèrent le sentiment de doute et d'anxiété, qu'ils n'auront pas moyen d'y échapper, et qu'estèrent ce qui s'ensuit. La peur, parce que la peur suit l'incertitude. C'est pourquoi frère Branham aimait à raconter l'histoire d'Arnold von Winkelried, qui disait aux soldats suisses, lorsqu'ils se sont retrouvés face à l'ennemi qui attaquait son pays. Il a dit, « Aujourd'hui, je meurs pour la Suisse. » Et il s'est avancé en courant et a crié, « Suivez-moi, les hommes !» Et il a couru dans les lances de l'ennemi bloquant dans ses bras autant de lances qu'il pouvait en prendre dans la poitrine afin qu'elles deviennent inutiles dans les bras des soldats qui les tenaient, créant ainsi une immense brèche pour que l'armée suisse s'y engouffre, déborde l'ennemi et les chasse de leur pays. Et l'exemple de l'action si féroce d'Arnold von Winkelried a fait qu'aucune armée n'a jamais plus essayé de conquérir la Suisse. Dieu n'aime pas les lâches. Il aime les héros. Frère Branham dit dans son sermon ce qu'il faut, pour triompher de toute incrédulité, notre foi le 29 juillet 1657 nous vivons maintenant dans un jour terrible. Mais tout ce dont vous avez besoin vous a déjà été donné, lorsque vous croyez. Aujourd'hui tant de gens, à ce que je vois, quand ils adhèrent à l'Église, et particulièrement ici en Amérique, ils deviennent tout simplement des vagabonds. Ils sont justes. Eh bien, gloire à Dieu, j'ai rencontré frère Branham, et je suis sauvé, et j'ai écrit mon nom dans le registre, et c'est tout ce que j'ai fait. Il vagabonde tout simplement. On ne doit pas faire cela. Vous n'avez pas été sauvé juste pour être un membre d'église. Vous avez été sauvé pour travailler. On n'habille pas une armée juste pour qu'elle reste au coin à flirter avec les filles, en bel uniforme. Nous entraînons notre armée pour le combat. Et nous ne sommes pas à un pique-nique. Nous sommes sur un champ de bataille. Nous sommes juste ici en train d'affronter l'ennemi de notre Seigneur Jésus, l'ennemi de nos âmes. Soyons à l'œuvre avec un cœur prêt à tout combat. J'aime ce psaume de la vie, Néhémie, soyez pas comme du bétail qu'il faut pousser. On doit vous amener dans un petit enclos quelque part et par ici, et par là. Soyons des héros. La vie des grands hommes nous rappelle à tous que nous pouvons rendre nos vies sublimes. En partant, laisser derrière nous des empreintes de pas sur le sable du temps. Des empreintes de pas peut-être qu'un autre, en naviguant sur l'océan solennel de la vie, pour qu'un frère découragé et naufragé, en voyant les traces de nos pas, puisse reprendre courage. Faisons quelque chose, nous sommes des hypocrites. Soyez un exemple d'intrépidité, et dans un monde de peur à chaque coin de rue, soyez intrépide, sans peur. Souvenez-vous, Dieu n'a émis vous a jamais donné un esprit de timidité ou de peur, mais de sagesse ou un esprit saint. C'est Esther le diable qui fait ça. Et cela montre que si vous avez peur, vous n'êtes pas saint d'esprit. En fait, la plupart des gens ont éteint leur esprit aujourd'hui et Néhémie pense même pas. Alors ils prennent un traitement médical, qui est Esther expérimental. Au lieu de dire assez Esther assez, je Néhémie vais pas boire ce calmant. Et puis de vous élever contre cela et de le leur faire savoir. Écoutez, vous devez vous tenir debout quand il Néhémie vous reste plus qu'à vous tenir debout. Les gens pensent, je pourrais perdre mon boulot. Et alors, j'ai perdu mon travail, je n'ai mis sais pas combien de fois, mais j'en ai toujours une meilleure la fois suivante. Dans 1 Roi 18.21, Élie dit au peuple, pourquoi vous arrêtez-vous entre deux opinions? Autrement dit, pendant combien de temps serez-vous boiteux et stoppé dans votre progression? La version amplifiée. Combien de temps serez-vous à l'arrêt et boiteux entre deux opinions? La NIF, une version de la Bible. Combien de temps hésiterez-vous entre deux opinions? Le NAS, combien de temps hésiterez-vous entre ces deux opinions? Ainsi vous voyez que la peur causera de grands dommages dans votre marche avec Dieu, parce qu'elle vous fait arrêter votre progression avec lui. Et vous savez, selon 1 Jean 1.7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est Esther lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Par conséquent, tant que vous marchez dans la lumière, vos péchés sont couverts et vous êtes en communion avec celui qui est Esther dans la lumière. Mais que se passe-t-il si vous vous arrêtez de marcher avec lui? Et vous vous arrêterez de marcher, si vous laissez vos peurs vous contrôler. Par conséquent, tout ministère ou tout celui qui met les gens dans un état de peur n'est-ce pas de Dieu. Souvenez-vous juste de ça. Saviez-vous qu'on nous dit 62 fois dans la Bible Néhémie craint point? Et il semblait qu'à chaque fois que l'ange de l'Éternel entrait en scène, il disait, Néhémie craint point. Par conséquent, tout ministère qui essaie de vous contrôler par la peur, ou par la peur de l'excommunication, c'est Esther un esprit qui vient de l'enfer. Au paragraphe 233 les uns du temps de la fin d'hymne 25 juillet 65 M. Car il est certes possible que ceux qui ont été une fois éclairés, et qui n'ont pas continué à avancer avec la parole, alors qu'elle s'accomplissait, ils sont morts, finis. Et si la peur vous fait vous arrêter, alors elle vous tuera aussi spirituellement. Remarquez, dans Genèse 19.26 la femme de Lot s'est Esther cristallisée, lorsqu'elle a cessé d'avancer avec la parole de Dieu. Qu'est-ce il arrivé? D'abord sa pensée s'est arrêtée, puis son corps s'est arrêté pour se retourner, et quand elle l'a fait, elle s'est changée en statue de sel. D'abord, sa pensée s'est cristallisée puis son corps s'est transformé en sa révélation. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur. Elle craignait de laisser derrière elle tous ses voisins et ses connaissances sociales de Sodome. Alors elle a regardé en arrière et s'est cristallisée en sel sur le champ. Or, lisons dans le texte au paragraphe suivant du sermon de frère Branham Dieu de voile, où il lit son texte dans Philippiens 2. Ainsi donc, il y a quelque consolation Christ? S'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. N'aimez fait rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Pas de motivation égocentrique ni de peur de perdre. Car c'est ce qui cause les conflits pour commencer. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il n'avait pas peur de mourir, alors pourquoi le devriez-vous? Il a mené la captivité en captivité et nous a libérés de la peur de la mort. Le monde craint la mort, mais pourquoi un chrétien devrait-il craindre la porte de la mort dans un corps céleste et un état glorifié? Or, continuons de lire afin de pouvoir focaliser sur pourquoi le message nous apporte la consolation. Eh bien, si nous le voulons bien maintenant, prenons 2 Corinthiens, chapitre 3. Nous commencerons au verset 6, et nous lirons jusqu'au verset 18, et aussi une partie du chapitre 4. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël Néhémie ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit Néhémie sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est-il de beaucoup supérieur en gloire. Et, sous ce rapport, ce qui était glorieux Néhémie l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus une gloire. Ayant donc cette espérance, nous devons grandement liberté, nous usons d'une grande liberté, et nous Néhémie faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage. Pour que les fils d'Israël Néhémie fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour le même voile demeure, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et Néhémie se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit, Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs sont convertis au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où, l'Esprit du Seigneur, là est les libertés. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous avons été transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous Néhémie perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses et qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous condamnons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Maintenant, lisons dans Dieu de voile d'hymne 14 juin 64 et mot page 137 voyez. Celle-là était tellement grande que même les gens disaient. Ils disaient, quand ils ont vu Jéhovah descendre dans cette colonne de feu, et qu'il s'est mis à ébranler la terre, et les choses qu'il a faites, et la montagne qui était embrasée. et même quiconque essayait de s'approcher de cette montagne périssait. C'était tellement impressionnant que Moïse lui-même était épouvanté devant la secousse. Alors, si cette fois-là il n'a ébranlé que la montagne, cette fois-ci il ébranlera les cieux et la terre. 138 Qu'en est stérile de cette gloire-ci? Si celle-là était voilée par un voile naturel, celle-ci est stérile, voilée par un voile spirituel. Alors, Néhémie cherchez pas à regarder au naturel, entrez dans l'esprit, et voyez où vous en êtes, voyez à quelle heure nous vivons. Dans Romains 1.1 l'apôtre Paul a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, cela signifie qu'il n'y a pas de forte censure, pas de répression ou d'expulsion. Vous faites partie du petit groupe pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui Néhémie marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. 2 En effet, la loi de l'esprit de vie qui est la loi de l'esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Autrement dit, si vous êtes affranchi, il n'y a plus rien qui vous entrave. Vous n'êtes pas contrôlé par une obligation ni par la volonté d'autrui. 3 Car chose impossible à la loi, parce que la chair et que le moi la rendaient sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. 4 Et cela afin que la justice, la juste sagesse de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. 5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, autrement dit, ceux qui sont égocentriques, s'affectionnent aux choses de la chair, du moi, de l'ego, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent, donnent leur attention aux choses de l'esprit. 6 C'est l'affection de la chair d'être égocentrique, c'est Esther la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est Esther la vie et la paix. 7 Car l'affection ou tendance de la chair, la pensée qui est Esther absorbée par le moi, l'ego, c'est Esther inimitée contre Dieu, parce qu'elle Néhémie se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle Néhémie le peut même pas. Donc, si vous êtes régi par le moi, vous êtes en guerre avec les choses de Dieu et vous Néhémie pouvez en aucun cas vous assujettir ou vous soumettre aux choses de Dieu, parce que vous n'avez pas son esprit en vous. Produisons le vouloir et le faire. 8 Or ceux qui vivent selon la chair, le moi, l'ego, Néhémie saurait plaire à Dieu. 9 Pour vous. Vous Néhémie vivez pas selon la chair, vous n'êtes pas égocentrique. Vous n'êtes pas motivé par le moi, l'ego, mais selon l'esprit, esprit centrique, motivé par l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'est aimé, il lui appartient pas. 10 Et si Christ estère en vous, le corps, il estère vrai, estère mort à cause du péché, mais l'esprit estère vit à cause de la justice. 11 Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. 12 Ainsi donc, frères, nous n'y sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. 14 Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant, voilà la clé de votre liberté. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. 16 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. 18. J'estime que les souffrances du temps présent et mis sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Dans son sermon Jéhovah des miracles, jeudi 26 novembre 59, frère Branham dit, 33 O. Elle s'estère aussitôt mise à louer Dieu et à dire aux gens qu'elle allait avoir un enfant. Sans connaître d'homme. Eh bien, rappelez-vous, elle était elle-même à la base de, ou plutôt, s'estère exposée aux critiques. Mais Marie-Néhémie s'estère pas arrêtée pour penser aux critiques. Elle Néhémie se préoccupait pas des critiques. Quand un homme arrive à recevoir le Saint-Esprit, vous Néhémie vous préoccupez pas de ce qu'en diront les voisins. Ça Néhémie vous dérange pas que vous criez, parliez en langue ou fassiez quoi que ce soit, ça. S'Esther révolue. Vous avez pris Dieu au mot, vous Néhémie vous préoccupez pas des critiques. Vous avez perdu toute votre classe intellectuelle appelée prestige, fabriquée par le diable, de votre propre fabrication. La chose que vous désirez, s'Esther trouvait grâce aux yeux de Dieu. Peu importe ce que le Saint-Esprit vous fait faire, crier, hurler, ou pleurer, crier à tue-tête ou quoi que ce soit que vous voulez faire. Tout ce que le Saint-Esprit place sur vous, vous le faites, parce que cela Néhémie vous dérange pas. Vous avez perdu toute cette histoire fabriquée par l'homme. Vous êtes libre en Christ Jésus. L'Esprit de Dieu vous a libéré. Et vous êtes libre par la puissance de Dieu. Vous baignez dans sa beauté. Vous l'adorez en esprit et en vérité. Vous êtes une personne libre. Vous avez accepté la parole de Dieu. Elle s'Esther répandue dans votre cœur. Cela vous Esther égale. Vous vous rendez. Et vous vous dites, eh bien, si je suis au travail un jour et que le patron disait, dis donc, j'ai appris que tu as été là-bas à cette réunion des saints exaltés et que tu as été guéri. J'ai peur. Non, vous n'avez pas peur. Frère, si vous êtes la semence d'Abraham, vous considérez comme une joie de vous tenir là et de témoigner de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est certainement le cas. Mon peuple n'aura pas honte. Si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père et les saints anges, a dit le Seigneur Jésus. Ils n'ont donc pas honte. Ils n'ont pas peur. Vous souvenez-vous des promesses concernant le croyant? Jean 3.18. Celui qui croit, piota sigmato epsilon, upsilon oméga nu, en lui n'Esther point jugé. Mais celui qui n'émit croit pas Esther déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Romains 9.33. Selon qu'il Esther écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit, piota sigmato epsilon, upsilon oméga nu, en lui Néhémie sera point confus. Romains 10.10. Selon ce que dit l'écriture, 11. Quiconque croit, piota sigmato epsilon, upsilon oméga nu, en lui Néhémie sera point confus. 1 Pierre 2.6. Car il Esther dit dans l'écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit, piota sigmato epsilon, upsilon oméga nu, en lui Néhémie sera point confus. Alors de quoi devons-nous avoir peur? Romains 8.15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba. Père. Frère Branham dit dans Christ Esther le mystère de Dieu Reveldim 28 juillet 63 233, regardez, Christ en vous fait de lui le centre de la vie de la révélation. Voyez, la vie de Christ en vous fait de lui le centre de la révélation. Christ, dans la Bible, fait de la Bible la révélation complète de Christ. Christ en vous fait de vous la révélation complète de la chose entière. Voyez, ce que Dieu essaie de faire. 234. Qu'Esther, ce qu'Esther la nouvelle naissance alors? Vous direz, Bien. Frère Branham, qu'est-ce qu'est-ce la nouvelle naissance? C'est-ce la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement? Amen. Voyez-vous, non pas que vous avez adhéré à une église, que vous avez serré la main, que vous avez fait quelque chose de différent, que vous avez récité un credo, que vous avez promis de vivre d'après un code de loi. Mais Christ, la Bible, il est la parole qui vous a été révélée. Et peu importe ce que quelqu'un dit, pasteur, prêtre, quoi que cela puisse être, peu importe ce qui arrive, c'est Christ. C'est Christ en vous. C'est cela, la révélation sur laquelle l'Église a été bâtie. Dans son message l'adoption d'hymne 22 mai 60, frère Branham dit en citant Paul, 150 et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'a. L'Assemblée dit, adoption. -de 151 maintenant, après que vous avez été adopté, d'accord, après que vous avez été adopté, que vous avez été placé, alors vous comprenez, après que la cérémonie a été prononcée, et que vous avez été placé correctement dans le corps. Vous êtes un fils, bien sûr, une fille, quand vous êtes né de nouveau, vous l'êtes, ça. C'est votre naissance. Mais maintenant vous êtes placé dans votre position. Nous n'avons point reçu un esprit de crainte, mais nous avons reçu un esprit. Nous avons reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba. Père, ce qui veut dire mon Dieu, c'est ça. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 152 Comment cela se fait-il? Vous dites, gloire à Dieu. Alléluia. Ça ne me dérange pas. Je suis enfant de Dieu. Alors vous sortez faire les choses que vous faites. L'Esprit de Dieu fera les œuvres de Dieu. 153 Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez? Voyez? Vous n'avez point reçu un esprit de servitude? Pour être encore dans la crainte. Remarquez ici, comment l'apôtre Paul oppose l'esprit de servitude à l'esprit de filiation. Mais remarquez, qu'il utilise le terme l'esprit d'adoption, qui parle de recevoir l'identification de l'esprit de Dieu, par laquelle nous sommes considérés ou reconnus ou attestés comme étant des fils. Le mot servitude doit être compris comme étant celle de la volonté. Car nos volontés étaient autrefois soumises à la chair, asservies à notre chair, mais c'est seulement par l'Esprit de Dieu, par sa parole, que nous avons été affranchis afin de suivre la conduite de l'Esprit. Jésus a dit dans Jean 8.34, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et de cet esclavage, aucune loi n'a émis, pouvait jamais vous affranchir. La loi Néhémie peut que vous faire craindre les jugements qui suivent le péché. Donc la loi, voire la loi de Dieu, Néhémie peut que détruire les œuvres de votre désir pécheur, mais elle Néhémie détruit pas ses passions qui permettent au péché de se manifester dans votre vie. Par conséquent, elle Néhémie les détruit pas mais nous rend conscients d'elle et augmente ainsi le désir de pécher. Elle intensifie en fait la haine de la loi et le désir de la transgresser. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba. Père, il nous dit que nous avons été affranchis de la peur et avons reçu l'esprit d'adoption par lequel vous faites confiance à Dieu. Cette confiance, il la montre très clairement par les paroles, par lesquelles nous crions, Abba. Père. C'est le cri du cœur qui est plein de confiance enfantine et Néhémie connaît pas la peur. Rappelez-vous, frère Branham a dit à frère Vell après avoir été enlevé pour voir l'autre côté. Il dit, lis. Depuis ce temps-là, je n'ai plus connu la peur. Et ce cri dont parle Paul qui s'écria « Baper le cri Némi » vient pas de la bouche mais du cœur, comme nous le voyons dans « Et ce cri dont Paul parle s'écria bas. Père. » Galates 4.6-7. Si c'est parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie, Abba. Père. C'est ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi hérité par la grâce de Dieu. Écoutez ces paroles de frère Branham dans l'exposé des sept âges de l'Église. La vision de Patmos. Page 64. 64-1 Néhémie. Jean. Néhémie. Petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous, alors que je suis au milieu de vous. Je n'ai m'y suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Tout pouvoir m'a été donné, et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole, et je l'accomplirai. C'est mon alliance, et elle est infaillible. Frère, ça. C'est Jean 14.12 et 13. 12 en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. 13 Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dans son sermon Dieu rend témoignage à Sedondim 13 juillet 52, frère Branham dit, 49 Alors Néhémie craignait rien, la crainte vient du diable. Tout ce que Jésus disait Sester, n'ayez pas peur. Constamment, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Esther se vrai. Toujours. Eh bien, Dieu Néhémie veut pas que vous ayez peur, il veut que vous croyez. Et dans son sermon Les eaux de séparation 21 janvier 55, 15 je me demandais souvent ce qui n'allait pas dans l'église chrétienne, ils ont très peur des choses. Eh bien, vous n'avez rien à craindre. Pratiquement, la première parole que Jésus a prononcée après la résurrection, c'est Esther. N'ayez pas peur. Voyez, n'ayez pas peur. Néhémie soyez pas effrayé. Il n'y aura rien. Rien Néhémie peut arriver. Rien Néhémie peut déranger un chrétien. Amen. Même pas la mort elle-même Néhémie peut toucher un chrétien, celui qui entend mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Et Néhémie vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Amen. La mort elle-même Néhémie règne pas sur un chrétien. Christ est mort à notre place. Amen. Quel merveilleux. Quelle foi devrait s'édifier dans les gens. Quelque chose qui obéira. Vous n'obtiendrez rien en étant un petit chrétien méduse. Absolument pas. Avez-vous déjà vu une méduse? Frappez-la, et elle éclabousse tout sur tout. Voyez, une méduse, vous savez qui les mange généralement? Les crabes et les choses qui sont le long du rivage, et ceux-ci s'amènent avec leurs pinces, ils la coupent en deux et l'emportent, car la méduse reste simplement sur place. Frères, nous avons besoin des chrétiens, pas de méduses, mais des gens qui sont dotés d'une colonne vertébrale, c'est vrai, qui résiste. Oh! Je ne m'y veux pas dire se quereller avec des gens, mais prendre position pour les droits que Dieu vous a donnés, pour lesquels Christ est mort. Certainement. Pas bousculer. On ne m'y doit pas être bousculé. Non, monsieur. Nous avons un héritage. Amen. Et notre héritage nous appartient. Et cessez votre droit de posséder tout ce que vous avez hérité, en acceptant Jésus-Christ et en mourant à vous-même. Comme cessez merveilleux.
Oui, monsieur.
Satan a dit, eh bien, je vais vous dire ce que je vais faire.
Non, tu n'y feras rien.
C'est ainsi qu'il faut lui répondre.
Dites, je connais ma position, Christ, et tu feras tout aussi mieux de t'en aller.
Je n'y vais plus t'écouter.
J'ai un héritage.
Paul dit dans Romains 8.28 nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
29 car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères.
30 et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
31 que dirons-nous donc à l'égard de ces choses?
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
32 lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment Néhémie nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui?
33 qui accusera les élus de Dieu?
C'est Dieu qui justifie.
34 qui les condamnera?
Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous.
35 qui nous séparera de l'amour de Christ?
Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée?
36 selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la bougerie.
37 mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
38 car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir,
39 ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature Néhémie, pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
Jésus a dit dans Luc 12.32 Néhémie craint point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume.
À nouveau, nous entendons Jésus dire dans Luc 12.4-7 je vous dis, à vous qui êtes mes amis, Néhémie craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, Néhémie peut rien faire de plus.
5 je vous montrerai qui vous devez craindre.
Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne.
Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre.
Si Néhémie vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous?
Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu.
7 et même les cheveux de votre tête sont tous comptés.
Néhémie craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux.
Question et réponse d'hymne 3 janvier 54 S202 et un serpent l'avait saisi à la main.
Suivez attentivement maintenant.
Paul n'a pas eu peur.
Il dit, Jésus-Christ a dit, s'ils saisissent des serpents, ils Néhémie ne leur feront pas de mal à qui.
Ainsi il s'estère avancé là et l'a secoué dans le feu. Il s'est retourné et Esther allait ramasser quelques broussailles qu'il a remis au feu.
Il s'est retourné pour se réchauffer le dos.
Et il s'est retourné comme ceci pour se réchauffer les mains.
Les barbares ont dit, comment Néhémie meurt-il pas?
Comment cet homme Néhémie meurt-il pas?
Comment n'est-il pas tombé mort?
Mais Paul était tellement rempli du Saint-Esprit, voyez-vous ce que je veux dire?
Rempli du Saint-Esprit que le poison Néhémie pouvait pas l'empoisonner.
203 oh, frère, donnez-moi une église remplie du Saint-Esprit.
Dieu fera en une année ce que tous les théologiens ont failli de faire pendant 2000 ans.
Attendez que l'onction de l'église frappe vraiment ce petit reste des fidèles.
Après que les portes des gentils se seront fermées,
oh, Dieu oindra une église à ce moment-là. Que celui qui a ster souillé, se souille encore. Que celui qui a ster juste pratique encore la justice, et que celui qui a ster saint se sanctifie encore. Et Dieu oindra l'église de la puissance de Dieu, et des choses se produiront. Non pas seulement en ce temps-là, mais il est ster en train de les accomplir maintenant. 204 Observez les signes et les prodiges, alors les gens se retourneront et diront, eh bien, c'est ster du diable. Oh! C'est ster parce qu'ils n'aiment, connaissent ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Et c'est ster la raison pour laquelle on en est ster là. Et dans son sermon, Hébreux chapitre 6. Du 18 septembre 57 s. 480 et pendant que nous avons la tête inclinée, s'il y a quelqu'un qui aimerait échanger une vie charnelle d'ordonnance, de baptême, de sensation, de petites choses charnelles comme cela, contre un véritable cœur rempli d'un tel amour réel, que vous pourriez aller vers votre ennemi le plus acharné, mettre vos bras autour de lui et dire, « Mon frère, je prierai pour vous. Je vous aime. » Si vous désirez échanger cette expérience de choses charnelles contre une véritable expérience d'amour, voudriez vous lever la main vers Dieu et dire, « Oh Dieu, prends-moi ce soir et fais de moi ce que je dois être. Je prierai pour vous justicier à cette chair. » Voudriez-vous que l'on prie pour vous? Levez la main. 481 Que Dieu vous bénisse là au fond, monsieur. Dieu vous bénisse, mon frère. Quelqu'un d'autre? Dieu vous bénisse, monsieur. Je viens à l'église depuis des années. Dieu vous bénisse, monsieur. Dieu vous bénisse, mon frère ici. Dieu vous bénisse là au fond, jeune dame. Je demanderai à Dieu de me rendre paisible. Esther, ce que vous? Êtes-vous vraiment furieux? Êtes-vous de mauvaise humeur? Doutez-vous? Vous agitez-vous? Vous demandez-vous si Esther est vraiment réelle ou pas? Quand vous venez à Christ, venez-vous avec une pleine assurance? Avec un cœur plein d'amour? Vous approchez-vous de lui sans peur? En disant, je sais qu'il est ster mon père, et il n'y a pas de condamnation. 482 Vous êtes passé de la mort à la vie. Vous le savez et vous examinez votre vie, vous êtes plein d'amour. Vous pardonnez. Vous êtes bon. Vous êtes paisible. Vous êtes doux. Tous ces fruits de l'esprit accompagnent chaque jour votre vie. Et dès que vous faites quelque chose de mal acquis, oh là là. Dès qu'il vous vient à l'esprit que vous avez mal acquis agi, mettez rapidement la chose en ordre. À l'instant même. N'attendez pas une minute de plus. Allez directement mettre la chose en ordre. Si vous n'aimez le fait pas, eh bien, vous n'avez pas l'esprit de Christ. Vous pourriez être une brave femme. Vous pourriez être un brave homme. Vous pourriez être bien considéré dans l'église. Vous pourriez être bien considéré dans votre entourage, mais tendez-vous à cette perfection, au point où vous placez toute votre confiance en Christ, et selon le, vous donne simplement le sceau. Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et Dieu lui donna le sceau de la circoncision comme confirmation. Dans 1 Jean 4.18 nous lisons, la crainte n'estère pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'estère pas parfait dans l'amour. Le diaglotte dit, la peur est de la restriction. La traduction VUS dit cet amour susmentionné, qui existe dans son état achevé, rejette la peur à l'extérieur, parce que cette peur a un châtiment, et celui qui a peur n'a pas été amené à son achèvement dans la sphère de cet amour, et n'ester pas dans cet état à l'heure actuelle. Par conséquent, nous trouvons par des preuves scripturaires, numéro 1, pour rejeter la peur, vous devez d'abord être capable de la reconnaître. Et puis, numéro 2, la peur produit la restriction, qui provient d'un manque de confiance, d'un malaise. L'anif, la peur a un lien avec la punition. L'anif déclare un Jean 4.16-18 ainsi. Et ainsi nous savons et nous arrivons à compter sur l'amour que Dieu a pour nous. Car Dieu est amour et quiconque vit dans l'amour vit en Dieu, et Dieu en lui. De cette façon, l'amour est rendu complet parmi nous afin que nous ayons confiance au jour du jugement. Car dans ce monde nous devons être rendus semblables à lui. Et je pourrais ajouter, comment cela se fait-il? Par le renouvellement de la pensée ou de l'intelligence, il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la peur, car la peur a à voir avec la punition. Celui qui a peur n'est pas rendu parfait, complet et mûr dans l'amour. Et dans la Bible où est mout, notre amour se manifestera dans toute sa perfection par le fait que nous ayons une confiance complète au jour du jugement, parce que juste ce qu'il est, nous sommes dans le monde. L'amour a en lui aucun élément de peur, mais l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique la douleur, et si un homme cède à la peur, il y a quelque chose d'imparfait dans son amour. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Maintenant, ce que Jean nous dit ici, c'est que si nous avons vraiment un amour parfait, alors nous n'aimons pouvons pas craindre parce que l'amour parfait chasse toute crainte. C'est la peur qui pousse les hommes à se faire la guerre, et c'est l'incertitude et la peur de l'incertitude qui pousse les gens à faire des choses dans une sorte de pensée d'autodéfense. Et c'est ce qui provoque des conflits et des mauvais traitements les uns envers les autres, la peur. Mais l'amour parfait rejette tout cela. 1 Jean 4.17-18 nous dit que la peur suppose un châtiment égal colasis égal punition, peine ou pénalité. Et quelle est la pénalité? Elle a un lien avec le fait de vous retenir. Cela vous oblige à vérifier et à vous retenir ou à vous empêcher de faire ce que vous savez devoir faire. Autrement dit, tant que vous aurez peur, vous n'avancerez pas. Vous vous contractez et vous arrêtez votre progression. Parce que cela n'est mis, vient pas de Dieu d'avoir peur. Chaque fois que l'ange de l'Éternel venait chez l'homme, les premiers mots qui sortaient de sa bouche étaient « N'ayez crainte point, car je viens de la présence de l'Éternel ». Nous lisons également dans 1 Jean 4.18 que l'amour parfait ou mature chasse la peur, parce que la peur à avoir suppose le châtiment. La peur cause des dommages, car lorsque les gens ont peur, ils sont liés par leur peur. Nous lisons dans 1 Jean 4. Cet amour parfait ou mature chassera la peur, parce que la peur a une pénalité. Elle suppose que vous vous figez et vous cristallisez dans votre pensée. Joseph commença à craindre que Marie n'ait pas été fidèle et Dieu envoya donc son ange pour lui dire de n'aimer pas craindre de prendre Marie, sa femme. Qu'est-ce que la peur a fait dans ce cas? La peur a fait douter Joseph et l'a fait s'arrêter d'aller de l'avant avec le plan de Dieu pour sa vie. Pierre marchait sur l'eau. Il marchait bien. Jusqu'à ce qu'il ait vu les vagues contraires et il a eu peur. Jésus a dit, « Pourquoi as-tu douté ?» Dans son sermon Jairus et la guérison divine mars 16 février 54 frère Branham dit, « 36 Esther, c'est le problème avec les gens qui ont le Saint-Esprit aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ont peur. 37 Le diable essaie simplement de vous effrayer avec quelque chose. Il essaie de placer quelque chose dans le futur, ailleurs, disant, un de ces jours, vous serez ceci. Vous l'êtes maintenant. Maintenant, nous sommes des fils de Dieu. Maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, nous avons toutes les puissances au ciel et sur la terre. Voyez, maintenant, nous avons cela. Pas dans le millénium, nous n'en aurons pas besoin en ce moment-là. Nous avons cela maintenant. Nous sommes. Maintenant même, nous sommes des fils de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que nous serons semblables à lui. Ce que vous êtes, ici est terre un reflet de ce que vous êtes autre part. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Esther, ce vrai? Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Déjà dans la présence du Père, nous avons un corps glorifié. Ouf! C'est Esther profond? N'est-ce ce pas? Très bien. Nous allons voir si c'est Esther vrai ou pas. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui attend. Esther, ce vrai? C'est Esther vrai. Ainsi maintenant même, et ce que nous sommes là, c'est Esther le reflet. Ici, ce que nous sommes ici Esther un reflet de ce que nous sommes ailleurs. Si donc vos œuvres sont mauvaises, vous savez d'où cela vient. Vous savez là où étant votre autre corps. Néhémie, t'appuie pas sur ton intelligence. Mervin, janvier 65 123. Ils peuvent se faire croire ça. Vous savez, la Bible dit que vous pouvez croire un mensonge et être condamné à cause de cela. Voyez-vous, c'est Esther l'exacte vérité. Il se forme. Peu importe ce que dit la parole de Dieu, ils s'appuient sur leur propre intelligence. Ils s'appuient dessus. Ils y croient. Ils pensent que c'est Esther la vérité. Vous pouvez continuer à croire un mensonge. Maintes et maintes fois. Jusqu'à ce que cela devienne pour vous la vérité. C'est Esther exact. 124. Mais comment savoir si c'est Esther la vérité ou pas? Dieu a confirmé que c'est Esther la vérité. Parce que c'est Esther dans sa parole et qu'il confirme cela. Il en donne lui-même l'interprétation. 125. Comment font-ils pour en arriver là? Ils le font à cause de leur culture, de leur instruction, leur connaissance de par leur diplôme de doctorat, leur diplôme, et tout, montrant qu'ils ont fréquenté tel séminaire et qu'ils ont appris ces choses. Et nous savons d'après notre étude sur la névrose du temps de la fin que le quatrième attribut dans le processus vers la névrose totale est Esther une phobie, qui est Esther une peur irrationnelle, excessive et persistante d'une chose ou d'une situation précise. Dans le livre de Job, nous le lisons en train de dire ce que je craignais le plus. C'est Esther ce qui m'Esther arrivé. Dans Ézéchiel, nous voyons pourquoi Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, puis je mettrai mon esprit en vous. C'est Esther pour que nous puissions accomplir de tout notre cœur sa parole et sa loi. En conclusion, Martin Luther a dit dans sa préface au livre des Romains, Dieu juge selon ce qui est Esther au fond du cœur, et pour cette raison, sa loi fait Esther exigeante au très fond du cœur et Néhémie peut se contenter des œuvres, mais fustige plutôt les œuvres qui sont faites autrement que du fond du cœur, comme de l'hypocrisie et du mensonge. Personne dans ses œuvres n'Esther un pratiquant de la loi, car même si vous pouvez observer la loi extérieurement, avec des œuvres, par peur du châtiment ou par amour ou pour récompense, néanmoins, vous faites tout cela sans bonne volonté, sans plaisir, et sans amour pour la loi, mais plutôt avec réticence, sous contrainte, et vous agiriez autrement, si la loi n'existait pas. La conclusion est Esther qu'au fond de votre cœur vous haïssez la loi. Qu'importe donc que vous appreniez aux autres à n'aimer pas voler, si vous êtes un voleur dans l'âme, et vous en seriez involontiers de l'extérieur, si vous aviez osé, pour cette raison, Paul dit dans Romains 7 que la loi est Esther spirituelle, car si la loi était pour le corps, elle pourrait se contenter des œuvres, mais puisqu'elle est Esther spirituelle, personne n'aimait peut la contenter, à moins que tout ce que vous fassiez soit fait du fin fond de votre cœur. Mais un tel cœur n'est à donner que par l'Esprit de Dieu, de sorte que le concerné a qui a dans son cœur le désir de la loi, et désormais, il n'émit fait rien par peur et par contrainte, mais il fait tout d'un cœur bien disposé. Quand cet esprit n'est pas dans le cœur, demeure le péché. Le mécontentement de la loi est l'inimitié à son égard, bien que la loi soit bonne et juste et sainte. Prions.